Ce soir, nous allons parler du discernement. Pour parler du discernement, c'est bien de reprendre conscience. Donc, le fait de discerner, c'est-à-dire de choisir, au fond, à travers le discernement, c'est le choix. Eh bien, le fait de discerner, c'est quelque chose qui s'impose à nous pratiquement quotidiennement. Que le discernement n'est pas simplement le fruit des grands choix de vie, et ça, je me permets d'insister là-dessus, même si, évidemment, ça reste valable. Mais le discernement est quelque chose de quotidien. Ne serait-ce que pour venir, par exemple, à cette soirée, ben, chacun d'entre nous, on a fait un discernement. Vous avez d'autres possibilités. Certains n'ont pas pu venir, donc ont priorisé d'autres choses, etc., ce qui est tout à fait naturel. Donc, on voit bien que le discernement est pratiquement quotidien, et c'est important d'avoir des critères. Et à travers ce discernement, c'est aussi le désir d'accomplir la volonté du Seigneur dans notre vie. On discerne pour voir ce qui est bien et ce qui, au fond, plaît à Dieu. Mais à travers ce discernement, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de lister un certain nombre de critères, hein, de critères de discernement. Alors, d'abord, vous avez le petit papier avec les points, j'aime bien faire ça, parce que du coup, ça permet, quand on vagabonde un peu, de se retrouver, où est-ce qu'il en est là maintenant, du coup, de se remettre dans le flot. D'abord, de dire le discernement, seulement le bien est objet de discernement. Bien souvent, ce n'est pas tellement le discernement entre le mal et le bien. On est, au contraire, invité à choisir le bien et éviter le mal. Mais c'est entre le bien et le bien. Et c'est là où c'est difficile. Par exemple, le fait de faire un casse ou attaquer la Banque de France n'est pas objet de discernement. Parce que c'est un mal objectif. Hein, le fait de commettre un homicide n'est pas objet de discernement. Mais en revanche, et on le voit bien, à l'intérieur de nos vies, on a à choisir entre plusieurs choses qui elles-mêmes sont bonnes et qui nous invitent, me dire où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on fera telle chose, on va faire telle chose, est-ce que, au fond, c'est ça, c'est choisir entre le bien et le bien. Et les critères que l'on peut lister, mais ça c'est important de se dire à travers ces critères, c'est pas le discernement en dit le son, mais c'est au fond un faisceau de critères, d'indices qui nous sont proposés, qui nous permettent un peu de voir où est-ce que le Seigneur veut nous conduire. Donc ces critères sont de deux ordres. Tout d'abord des critères subjectifs et des critères ensuite objectifs, hein, sachant qu'aucun critère ne se suffit à lui-même. Parce que certains, oui, mais moi, dans tel cas, je n'y arrive pas. Voilà. C'est un ensemble de choses qui nous permet de voir ensuite ben, dans quelle mesure on est appelé à discerner et à prendre des options. On va lister d'abord les critères subjectifs. Qu'est-ce qu'on appelle subjectif? C'est les critères qui sont dans le sujet qui discerne. C'est ça que subjectif. C'est-à-dire qui appartiennent au sujet lui-même qui est amené à prendre une décision. Alors, on va disséquer les choses, parce que c'est bien un peu de distinguer les choses, les disséquer. Alors, ça paraît, on dit, ouh là là, mais heureusement qu'on a pris des décisions, on n'a pas vu tout ça, parce que sinon, on n'aurait pris aucune décision. Mais le fait de disséquer, ça donne aussi ensuite une habitude du discernement, un peu des critères, des portes par lesquelles il faut passer pour, justement, avoir plus de lumière dans l'intelligence pour choisir. Donc, la première chose qui me paraît importante, c'est pas exhaustif hein, comme liste, c'est d'abord le désir, d'avoir confiance dans nos bons désirs, ce qui nous habite. Hein, ce fameux « connais-toi toi-même » hein, de la sagesse grecque, de dire au fond quels sont mes désirs, qu'est-ce qui m'habite dans mon cœur, et de se laisser au fond appeler par le Seigneur en répondant à ses désirs pour nous engager dans telle ou telle voie. Donc ça veut dire, sachons aussi écouter notre cœur, sachons être à l'écoute de ce qui est source de bonheur en nous, hein, ce qui nous rend heureux. Et c'est vrai que rien que ça, qu'est-ce qui nous rend heureux profondément? Vous voyez, c'est pour beaucoup de personnes, ils ne se sont même jamais posé la question, parce que bon, il faut bien vivre, il faut bien travailler, il faut ceci, cela, la vie quotidienne qui prend le plat, mais qu'est-ce qui répond à l'attente de mon cœur? Qu'est-ce qui, intérieurement, m'habite. Et vous êtes aussi à des âges, vous avez des grands désirs, des grandes impatiences. Donc, qui ont besoin, évidemment, d'être discernés, d'être accompagnés, d'être bons. Mais partons de ça, de ces bons désirs qui habitent le cœur de la personne qui est appelée à prendre une décision. Ensuite, la décision, évidemment, plus la décision est importante, plus ce deuxième point, évidemment, a quelque chose de capital, c'est arriver à une certitude intérieure. Alors, c'est sûr que choisir entre un peu de chocolat et un croissant, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une certitude intérieure à nulle autre pareille. Hein. Mais pour choisir la personne avec qui on veut construire sa vie, choisir un engagement professionnel, d'arriver à une certitude intérieure, c'est-à-dire que on ne s'engage pas dans le brouillard, dans un brouillard absolu. Même si c'est vrai, j'ai vu un certain nombre de cas comme ça où des personnes m'ont dit, bah, écoutez, c'est quand j'ai accepté de faire confiance, c'est quand j'ai accepté de me lancer, entre guillemets, de lâcher prise, c'est là où j'ai eu la lumière et j'ai eu la certitude intérieure. Donc c'est un peu en fonction des psychologies, c'est assez différent. Mais c'est intéressant de voir que cette certitude va être aussi le lieu pour pouvoir nous appuyer lorsque la décision sera prise. Et on va pouvoir faire mémoire justement, dans les moments d'épreuve qui arrivent bien souvent dans la vie professionnelle, dans la vie matrimoniale, dans la vie consacrée, hein, ou dans tout autre choix qui engage un tant soit peu la vie quotidienne, bien, il viendra un moment d'épreuve. Et si je n'ai pas eu cette certitude intérieure, et qui est vraiment un don du Saint-Esprit, cette certitude qui me dit ben, j'ai assez de lumière dans l'intelligence pour agir. Du coup, au moment de l'épreuve, ce sera un peu compliqué pour pouvoir faire mémoire. Justement, faire mémoire que je ne peux pas dire que je n'ai pas eu la lumière au moment d'agir. Je ne peux pas le dire. Mais si au moment d'agir, justement, je n'ai pas eu de lumière suffisante, ben, ce sera difficile de rester fidèle et d'une certaine manière, oui, de s'engager sur le long terme. J'aime bien cette phrase de Saint Ignace, là, ce conseil, évidemment, les jésuites sont les grands, spécialistes du discernement, et les exercices spirituels ont cette vocation, entre autres, de discerner la volonté du Seigneur, de dire, si on n'a pas de lumière pour aller à droite ou à gauche, c'est-à-dire si on n'a pas forcément de certitude intérieure, ça peut arriver. Il y a des tas de cas où, qu'est-ce qu'il faut choisir? Entre le bien et le bien, bien sûr, mais est-ce que c'est telle chose, est-ce que c'est telle autre, est-ce que... je sais pas, dans l'appartenance à des groupes d'église, par exemple, il y a des tas de choses qui nous sont proposées, surtout à Paris. Les choix, parfois on n'a pas forcément, vous voyez, de clarté dans l'intelligence, vous voyez, de lumière. Alors, c'est assez intéressant quand Saint Ignace dit ça, ben, quand on n'a pas de lumière pour agir, pour aller à droite ou à gauche, on reste là où on est. On reste là où on est. Jusqu'à temps que le Seigneur lui-même nous donne sa lumière. C'est assez intéressant de voir ça, parce qu'on aurait spontanément tendance à prôner, entre guillemets, le changement pour le changement. Vous voyez, il y a toute une dynamique dans ce sens-là, du changement pour le changement, ou alors... c'est toujours plus vert dans le pré du voisin. Oui, ça peut être une forme de zapping, hein, on voit bien, hein, dans nos vies. Et de dire non, ben, restons dans l'humilité et demandons au Seigneur de nous éclairer. Et si je n'ai pas la lumière, eh bien, je reste là où le Seigneur m'a planté. Et j'apprends, et ça c'est important, à fleurir là où j'ai été planté. Toute terre peut devenir cette bonne terre qui donne du 100 pour 1. Comme toute terre peut devenir cette terre caillouteuse, hein, qui, où l'herbe pousse, là, le blé pousse, et puis ensuite, eh bien, comme il n'y a pas de racines, eh bien, elle s'essouffle. Donc, n'accusons pas les circonstances pour dire, eh bien voilà, je ne porte pas de fruits, parce qu'au fond, l'essentiel dans notre vie, c'est vraiment la fécondité. Il y a plusieurs formes de fécondité. N'accusons pas les circonstances pour dire, ben voilà, je ne peux pas porter du fruit pour X raisons, et donc accusant telle ou telle circonstance. Donc c'est beau justement de dire, j'accepte de demeurer. Vous savez, dans l'évangile de Saint Jean, le fait de demeurer est très, très fort, hein, de demeurer en la présence de Dieu, de demeurer dans son commandement, de demeurer dans son amour, et de porter du fruit là où le Seigneur nous a mis. Ensuite, comme attitude intérieure qui me paraît vraiment importante, bon, qui est assez évidente, c'est la rectitude d'intention. C'est important qu'on discerne, qu'on soit droit dans ses bottes. C'est-à-dire que c'est pas surtout quand le discernement engage, évidemment, bien au-delà que, qu'un simple choix qui est passager et éphémère, mais qui est vraiment, est-ce que je désire, oui ou non, accomplir la volonté de Dieu ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Et vous voyez, en nous, il y a toujours quelque chose qui nous fait avoir peur de la volonté de Dieu, comme si ça pouvait s'opposer à notre propre volonté, ou même brider notre liberté. Et on prend conscience en avançant dans la vie spirituelle que cette volonté de Dieu, au fond, quand on l'accueille, est aussi notre liberté et est aussi notre plus grand épanouissement. Mais ça veut dire quoi derrière ça ? Ça veut dire avoir une rectitude d'intention, hein, ne pas, remarquez, pas d'engagement à laisser ou essayer le contraire pour vérifier son appel. Ben, du coup, je vais essayer, je sais pas quoi, une relation amoureuse pour bien voir. Ben, je suis vraiment pas fait pour ça. Du coup, je vais m'engager au monastère ou un truc comme ça. Donc, bon, ce serait, oui, ou alors simplement avoir une relation amoureuse, tout simplement pour pas être seul, parce qu'on a peur de la solitude. Mais au fond, on sait très bien que intérieurement, ça n'ira pas plus loin. Oui, c'est pas honnête. Et ça, c'est des trucs qui sont pas... C'est avoir une rectitude d'intention. Ça, vous savez, par rapport au sacerdoce ou à la vie religieuse, c'est très important de sonder la rectitude. Est-ce que c'est vraiment avec une intention droite ? Et on voit bien que dans notre cœur, on est mélangé. Nous sommes tous mélangés. C'est jamais des intentions pures, ben, évidemment, parce qu'on est aussi... On a un combat intérieur. Mais, en tout cas, de discerner... Là où il y aurait quelque chose de la compromission ou de la d'une recherche de soi-même qui ne serait pas en place, vous voyez, de le discerner ça aussi, d'avoir suffisamment d'humilité et de clairvoyance pour dire bah oui, mais les motifs sont pas toujours archi purs pour une décision. Ils se purifient. Je me souviens, tiens, cette femme mariée avec un militaire. Très bien, Cato plus, etc. Bon, le militaire quitte l'armée, comme ça arrive bien souvent au bout d'un certain nombre d'années, grosse crise matrimoniale. En fait, la fille avait épousé les galons. Mais sans s'en rendre compte, mais c'était pas forcément conscient, vous voyez, elle avait pas forcément au début percuté. C'est qu'après, où elle avait dit, bah oui, au fond... Et je sais pas, ça l'avait déstabilisé à un point, mais qui, alors qu'il avait une très belle situation, alors que bon, voilà, il a, et puis c'est tout à fait naturel dans l'armée, je dis, c'est souvent un passage à partir d'un certain nombre d'années de service, bon. Oui, la pureté d'intention, les motifs pour lesquels on pose des actes, c'est pas si simple. Et c'est souvent, et c'est là où il faut de l'humilité, c'est souvent le Seigneur qui purifie nos motivations. Ah oui, chacun peut avoir ses motifs. Ça, bien sûr, chacun peut avoir ses motivations. Mais est-ce que, par exemple, dans le mariage, on Non, mais simplement que les galons, on les quitte. Et épouser les galons, c'est sympathique, mais c'est d'abord une personne qu'on épouse. C'est d'abord un amour désintéressé pour l'autre. C'est un amour de bienveillance. C'est d'abord ça, d'être ça. Est-ce que c'est vraiment la personne ? Alors, qu'on puisse être attiré avec tout ce que signifie l'armée, le décorum, tout ce que veut dire aussi les valeurs qui sont portées là, etc. Très bien, mais est-ce que c'est vraiment cette personne-là ? Puis si cette personne-là, un jour, pour accident de la vie, problème de santé, bon, devient handicapée, alors c'est quoi ? C'est le sportif que j'ai épousé, etc. Vous voyez ? Est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai épousée ? Hein, pour prendre un autre exemple historique, cette fois-ci, c'est avec Mussolini. Mussolini... Donc, les alliés arrivent en Italie, etc. Bon, condamné à mort, et on dit à sa femme, si vous voulez, il y a une petite porte de sortie pour vous. C'est-à-dire, vous ne serez pas condamné à mort. Bon. Et elle dit, je l'ai suivi dans la vie, je le suivrai dans la mort. C'est cet homme-là que j'ai épousé, il n'y a pas de raison. C'est cette personne-là. Bon, c'est... Ah, ça, bah, oui, pour un homme qui devait être un peu complexe à vivre, mais vous voyez, c'est vraiment, c'est ce choix, et c'est là où il faut, mais c'est là où ça se purifie. Et c'est archi normal qu'au départ, ce soit pas clair, comme de l'eau de roche. C'est assez rare que ce soit ultra clair. C'est, on purifie petit à petit ses intentions. De l'eau de roche, oui, c'est la façon de parler. Oui. Mais donc, on purifie petit à petit les intentions. On peut. Et qu'est-ce qui purifie? C'est l'amour qui purifie. C'est l'amour de Dieu qui nous purifie. Je me souviens, j'avais parlé comme ça à une sœur de Bethléem et je lui ai dit, moi, mon noviciat, on est allé à Poligny, là. Non, c'est Poligny, c'est près de Paris, là, où elles ont des ermitages, etc. Et je lui posais, mais qu'est-ce qui est le plus purifiant? Est-ce que c'est la vie communautaire ou est-ce que c'est la vie de solitude? Hein, comme les sœurs de Bethléem vivent une vie de solitude. Je lui dis, mais c'est l'amour qui purifie. C'est ça, c'est le fait vraiment d'aimer de façon désintéressée, de rentrer dans cette logique-là. Alors, rectitude d'intention, confiance, abandon, hein, comme une attitude de disponibilité de l'intérieur. C'est vrai, hein, ça paraît un peu évident, mais dans tout choix, il faut renoncer à une forme de mentalité sécuritaire. Hein. On voit une mentalité sécuritaire qui se développe très fort, partout. Hein, zéro risque, risque zéro, enfant parfait, bon, on voit tout ça. Et nous, au contraire, dans la vie spirituelle, on prêche la confiance. On prêche l'abandon. C'est-à-dire laisser la porte aussi à éventuellement un échec, au fait de s'être trompé, alors qu'en conscience, on pensait avoir pris la bonne décision. Laisser la porte ouverte à ça. Laisser la porte ouverte à la souffrance aussi dans notre vie. Et c'est parce qu'on laisse ouverte la porte à la souffrance qu'on peut aussi faire confiance, parce qu'on sait que dans ce moment difficile, ben, le Seigneur aussi sera là au rendez-vous. Donc c'est important de reprendre conscience de ça, de redire, au fond, que sans une dimension de confiance, d'abandon, hein, de remise de soi entre les mains du Seigneur, il n'y a pas de vrai discernement. Parce que souvent, vous voyez, il n'y a pas forcément de mauvaises solutions. Donc, quand on choisit entre le bien et le bien, précisément, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise solution. Il n'y a que des bonnes solutions. Mais ces bonnes solutions s'avèrent avec le temps, oui ou non, pérennes, oui ou non, opportunes, etc. Mais quand j'ai choisi vraiment d'avoir cette attitude de confiance, sachant que je ne maîtrise pas tout, surtout que dans un engagement avec l'autre, il y a la liberté de l'autre, tout simplement. Il y a sa manière d'agir, sa manière de répondre. Et puis il y a les circonstances. On va y revenir tout à l'heure. Mais c'est important de se remettre au fond intérieurement dans ça. Hein, joie et paix intérieure. C'est vrai que souvent, vous l'avez certainement entendu dire, de voir au fond la joie et la paix intérieure sont des signes que c'est aussi l'Esprit-Saint qui agit. Mais en même temps, pour compliquer et corser un peu le truc, c'est pas parce qu'il y a des tempêtes que c'est pas de l'Esprit-Saint. C'est pas parce que c'est un peu laborieux que c'est pas de l'Esprit-Saint. Au contraire, on voit bien souvent les débuts sont parfois difficiles. Donc, en même temps, oui, la paix, la joie, quand on a pris la décision, et donc du coup, on est dans une joie intérieure, etc., oui. En même temps, ne pas exclure le moment agité, parce que là aussi, il faut discerner. C'est pas, oui, mais du coup, je suis pas en paix, c'est pas de Dieu. On sait rien. Peut-être il faut que tu renonces tout simplement à un attachement qui fait qu'il y a un combat intérieur. Donc il faut vraiment prendre du temps et puis de demander au Seigneur vraiment sa lumière pour, au fond, prendre conscience de ce qui nous habite. Hein. Une liberté intérieure, ça c'est aussi Saint Ignace qui parle de ça, c'est et dans les exercices, je ne sais pas si l'un ou l'autre ont fait des exercices spirituels ignatiens, on demande à un moment donné d'offrir l'Isaac du cœur. C'est-à-dire, vous savez, avec Isaac, Abraham qui a dû offrir donc Isaac hein, sur la montagne, etc. Au dernier moment, Dieu retient son bras. Hein, c'est-à-dire, il faut offrir au Seigneur, quand on veut discerner, ce à quoi on est le plus attaché, ce à quoi on ne veut pas renoncer. Ce qui nous paraît incontournable, ce qui nous paraît non négociable. De l'offrir. Intérieurement, Seigneur, si tu veux le prendre, prends-le. C'est pas simple parce qu'on est attaché à des tas de choses. On a des projets, on a peut-être des certitudes intérieures. Je suis faite pour ceci, pour cela. Et on voit bien qu'en nous, il y a un combat justement de ce détachement. Donc, d'offrir l'Isaac du cœur, au fond, pour. Et ce que dit Saint-Ignace, c'est très beau de dire on se présente au Seigneur dans ce qu'on appelle une sainte indifférence. C'est-à-dire, on se présente au Seigneur. Laisse émerger en moi ce à quoi tu m'appelles. Laisse émerger en moi ce à quoi tu m'appelles. Mais je t'offre, c'est-à-dire à un moment donné, d'avoir cette disponibilité intérieure, cette profonde. Abandon, au fond, hein, de. Mais c'est pas si simple, hein, parce que ça se fait dans la prière, ça se fait dans la. Mais d'être vraiment à un moment donné, et puis on voit ensuite le Seigneur qui nous redonne au fond, même si c'est ce pourquoi on était fait, qui nous redonne ou qui nous redonne pas, ça dépend. Le choix pour lequel on avait plutôt opté. Hein? Donc c'est intéressant de découvrir au fond que le discernement. Eh bien, on ne peut pas faire l'économie d'un chemin spirituel. On ne peut pas faire l'économie d'une, au fond d'une, oui c'est ça, d'une véritable confiance en Dieu. D'une véritable remise entre ses mains. S'il y a quelque chose de tronqué. Alors, le Seigneur aussi trace des droites avec des lignes courbes, et puis bon, on est marqué par le péché, et puis par la complaisance, et puis par, on est des personnes très complexes aussi, hein. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'au plan subjectif, le fait d'arriver intérieurement à cet état de détachement et à cet état de telle l'argile au fond, hein, face au potier, ça demande une confiance en Dieu qui est énorme. Oui, ensuite, un autre point qui est vraiment intéressant, c'est une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle. C'est-à-dire, il y a quand même une facilité, je pense, au plan professionnel. Il y a un certain goût. Encore une fois, ça rejoint le désir et ça rejoint, au fond, ce que l'on a pu voir de se connaître toi-même. Il y a une certaine facilité, une certaine aptitude, un certain goût à Le Seigneur ne nous, et c'est là où je crois que c'est une vraie miséricorde de Dieu, ne nous appelle pas des choses pour lesquelles on aurait une répulsion totale. Mais au contraire, dans ce goût de cultiver ce pourquoi on a le goût, et dans ce goût des bonnes choses et des choses qui nous font grandir, des décisions qui nous font grandir, bien d'y voir aussi un signe de la part du Seigneur. Un autre conseil de Saint-Ignace aussi, hein. Ne pas remettre en cause au moment de la tempête ce qu'on a discerné en pleine lumière. Ça c'est vraiment important. Si on a eu une vraie certitude intérieure à un moment donné dans notre vie, eh bien cette certitude intérieure, c'est pas parce que et vient les moments. Quelle vie n'a pas sa tempête? Quelle vie n'a pas sa tempête? Mais c'est pas justement, c'est là où Saint-Ignace nous dit, mais c'est là où vous êtes le moins à même à remettre en cause la décision que vous avez prise. Parce que précisément, vous n'avez pas assez de lumière, quoi. Vous n'avez pas assez de. Vous êtes dans le noir, le brouillard le plus complet.
Est-ce que parfois certaines décisions ne vous mettent pas dans un état de tempête?
Alors. C'est-à-dire, il faut toujours. Oui, ça. Est-ce qu'il y a des décisions qui ne nous mettent pas dans les états de tempête? Oui. Je me souviens, avant de rentrer à la vie religieuse, j'ai connu un vrai moment d'angoisse, par exemple. Alors que j'avais fait tout le discernement, tous les petits trucs, les critères, les machins, tout bien, tout ça. Bon. À un moment donné, c'est là où il y a un autre point qui est important. On est face à une disproportion. on est face à quelque chose qui nous dépasse, surtout dans les choix qui engagent notre vie. Il y a toujours une disproportion entre ce à quoi on est appelé et ce que nous sommes. Et justement, c'est cette disproportion-là qui est le lieu aussi de l'abandon. Parce qu'on n'a pas maîtrise sur tout, on n'a pas barre sur tout. Alors oui, on peut être parfois, par telle décision, être mis dans la tempête, mais est-ce que ça veut dire que ce n'était pas la bonne décision? Pas forcément. Tout simplement parce que je devais renoncer à certains attachements ou à certaines autres options que j'avais prises, ou tout simplement par le regard des autres sur moi. Oui, mais pourquoi t'as pris ça? Pourquoi? Du coup, on vit plus par procuration sous le regard de l'autre. Mais bon, est-ce que c'est vraiment la mauvaise décision? C'est pour ça, la tempête n'est pas forcément le... En plus, il y a des psychologies, je veux dire, tempétueuses. C'est-à-dire qu'il y a des psychologies, dès qu'il y a une décision, il y a une angoisse énorme, des angoissés. Des pères, bon, ben voilà, on a la psychologie qu'on a, on n'en a pas forcément choisi. Des anxieux. Dès qu'ils ont pris une décision, là, il faut la remettre tout de suite en cause, parce que tout de suite, on voit 25 choses qui s'y opposent. Mais c'est là où se connais-toi toi-même. Vous voyez, c'est... Ben je sais que je suis angoissé. Bon, ben voilà, ma psychologie, elle est comme ça. Ben voilà, je sais que je suis angoissé. Je reste dans l'humilité. Mais justement, dans cette tempête, parce que je sais que si je ne prends pas de décision, je serai encore plus angoissé. Donc, vous voyez, donc on dit, mais où est-ce qu'il faut aller? Mais dans cette tempête, où est-ce que le Seigneur me guide? Je veux dire, qu'est-ce qui est du domaine psychologique? Et qu'est-ce qui est du domaine plus spirituel? Qu'est-ce qui est du domaine de... Est-ce qu'au fond de ça, il y a quand même une paix, il y a une stabilité, il y a une forme d'objectivité, hein. C'est pour ça que c'est important de... On retravaillera les critères objectifs, mais est-ce qu'au fond de ça... C'est pour ça que dans ce paragraphe-là, il est dit donc prendre une certaine distance avec les émotions, hein, qui nous jouent des tours. C'est vrai que parfois nos émotions de peur ou de joie ou d'enthousiasme, ça peut aller dans les deux sens, bah, nous submergent et ne nous aident pas forcément à prendre une décision. Ou la remettre en cause alors que c'était peut-être la bonne décision. Mais est-ce qu'aussi, vous voyez, dans les décisions qu'on prend, moi ça devient, quand on choisit le bien, on s'entend, hein, mais quand on a vraiment le désir de choisir le bien, d'accomplir la volonté de Dieu, etc., ça peut devenir la bonne décision. Même si au départ, ben voilà, il n'y a pas forcément une clarté, même si au départ, bon, parce que justement, j'accepte de fleurir là où j'ai été planté. Avec les choix, ça devient la bonne décision. Donc la difficulté, c'est de faire sien l'entourage dans lequel on est, la circonstance dans laquelle on est plongé, de l'assumer. Alors ça deviendra la bonne décision. Je crois qu'il ne faut pas voir la volonté de Dieu... Il ne faut pas voir la volonté de Dieu comme extérieure à nous-mêmes. Comme c'était un point là-bas, en fait, il y a la cible, et puis non, manque de bol, à côté. Parce que je crois qu'il y aurait quelque chose qui, de la part du Seigneur, ne tiendrait pas compte de nos humanités. C'est dans ces sinusoïdales que sont nos vies que la volonté aussi de Dieu se glisse. Qu'on a le désir, encore une fois, d'une intention droite, qu'on a le désir d'accomplir, bon, puis qu'on s'aperçoit, bon. Mais est-ce que je crois que malgré telle décision, qui ne m'arrête pas? Alors il faut ensuite, là on parle en général, ensuite le particulier, il faut toujours justement passer du général au particulier, c'est dans l'accompagnement spirituel essentiellement. Et on voit justement, est-ce que, parce que non plus, il ne faut pas être le dernier des Mohicans accroché à sa décision jusqu'à la mort. Parce que parfois, il faut lâcher prise, je dis oui, ben, passe à autre chose. Vous voyez, c'est là où c'est compliqué, le discernement, parce qu'il n'y a pas un truc, on dit le son, voilà, et puis à la fin, on sort avec le discernement breveté. Alors, l'expérience, donc, c'est ça, de dire, voilà, ne pas remettre en cause, dans la tempête, ce qu'on a discerné en pleine lumière. Si vraiment je suis arrivé à une certitude intérieure, et j'imagine, au moment de se marier, il y a toujours une angoisse. Quand on veut se marier, ben, dans le sacrement, qu'on veut se marier dans une dimension... pour la vie, quoi. Ben, qui n'a pas... Qui, ça donne un certain vertige, surtout la durée de vie à tendance, comme qui dirait. Donc maintenant, on est parti pour 50 ans. Quoi. Avant, c'était 20 ans. Bon, tu dis, j'ai encore... Mais comme maintenant, c'est minimum 50 ans, 60 ans, le minimum syndical, donc du coup... Mais c'est là où vous voyez, on en avait parlé un petit peu dans l'engagement, mais je ne m'en rappelle plus. C'est là où parfois il y a le démon aussi qui vient nous tenter, qui vient nous jouer avec nos émotions en nous présentant en une seule fois toutes les difficultés, alors que c'est chaque jour suffit sa peine. C'est pas toutes les difficultés une seule fois. Vous voyez, le curé d'Ars disait, si j'avais su tout ce que j'ai... J'avais dû endurer pour jamais je me serais engagé. Mais justement, c'est une tentation de voir, d'une certaine manière, de réduire le temps, de compacter le temps et de voir tout ce qui est en face. C'est chaque jour, je suis à peine. C'est vraiment, c'est ce quotidien où on reçoit la manne. Et vous en avez fait l'expérience, j'en suis sûr. Cette présence du Seigneur dans votre vie, dans ce quotidien, puis demain ce sera un autre quotidien, puis demain, etc. Et puis peut-être il y aura telle épreuve, mais en même temps j'aurais vécu d'autres choses, où on me serait armé d'une autre manière, en même temps, bon. Quand je dis l'expérience de cette disproportion, comme la Vierge Marie, les prophètes qui ont été appelés pour le coup à des missions transcendantes, bon. Les signes. Un dernier mot sur les signes, on en avait parlé la dernière fois à propos du célibat, de comment vivre le temps du célibat. Les signes, alors c'est vrai, je crois tout à fait au fait que Dieu agit dans notre histoire et nous montre des signes. Mais pour qu'un signe soit un signe, ça demande d'être confirmé. Ça demande d'une manière ou d'une autre d'être validé. Parce qu'il peut y avoir aussi une forme de providentialisme. Alors il y a toute une technique formidable, le fait d'ouvrir la Bible comme ça au hasard. Tu ouvres la Bible là, puis tombe, va, vends tout tes biens et quitte-moi. Ferme la Bible. Tu rien. Va, vends tout tes biens. Ferme la Bible. Ensuite, c'est vrai que la rainure du livre a tendance à guider un peu l'ouverture. Enfin, c'est pas que Dieu n'appelle pas non plus en ouvrant la Bible, mais ça demande peut-être un peu plus de discernement. Vous voyez, ça demande... Il n'y a pas que l'ouverture de la Bible au hasard. Quoi. Ça, c'est une forme de providentialisme. Où j'ai fait telle rencontre, mais évidemment, c'est de Dieu. Oui, peut-être non. Donc, les signes... C'est pour ça que je l'ai mis à la fin des critères subjectifs, parce que, précisément, le signe, il est à la charnière, et de l'objectif et du subjectif. Et le signe, il demande justement le recours à quelqu'un d'extérieur. Et c'est ce qui nous amène, sans plus de transition, donc au critère objectif, c'est-à-dire objectif, objectum, en latin, c'est ce qui est jeté devant moi, c'est-à-dire aux critères qui sont, d'une certaine manière, validés, visibles, par l'extérieur. Si le désir était un critère subjectif, la durée du désir est un critère objectif. Vous voyez, la durée du désir, c'est un désir qui revient dans le temps, persiste, ben, il peut devenir vraiment peut venir de Dieu. Quelque chose alors qu'on a vraiment voulu, ben, ça revient, on sent que ça nous prend, ça nous taraude, ça nous habite. La durée. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la présence de l'Église au plan objectif pour nous chrétiens et catholiques en particulier. Mais ça pourrait être pour les non-catholiques, protestants ou orthodoxes, de voir la présence de l'Église, la présence d'une médiation. Nous sommes dans la religion des médiations. C'est-à-dire qu'on ne discerne pas seul. On ne discerne pas seul tout simplement parce que nous ne sommes pas appelés, c'est-à-dire nous n'avons pas forcément toute la lumière pour discerner et pour choisir. Et combien, dans tel ou tel exemple, ça m'a été vraiment d'une grande aide, justement, de pouvoir me confier, de pouvoir m'ouvrir. qui est déjà un acte d'humilité. Et bien souvent, c'est l'humilité qui attire la grâce. Oui, parce qu'on dit, oui, je veux chercher le père spirituel, qui, que quoi. Bon. Je me méfie beaucoup de la starisation dans la Sainte Église. Ça, je crois que c'est vraiment pas rendre service à un prêtre. Et puis bon, voilà. S'il fallait, moi, c'était le curé d'Ars, j'aurais dû rencontrer le manque de bol, ça fait 150 ans que, voilà. C'est pas possible, quoi. Alors, du coup, il n'y a personne d'autre. Non. Là aussi, est-ce que dans les personnes qui sont à mes côtés, on verra tout à l'heure, mais au plan de l'accompagnement spirituel, aussi de faire confiance. Il n'y a pas que des gens complètement, voilà, il me faut le nez. Non, à mon avis, c'est un peu se mettre le. Il y a des gens qui, en général, dans les diocèses, ont reçu mission d'accompagner. Hein, ou dans des communautés religieuses, ou dans des monastères, etc., des frères ou des religieuses qui ont reçu mission. D'une certaine manière, c'est ça. De voir que l'Église nous soutient et nous accompagne dans nos humanités. Nous sommes ce que nous sommes grâce à l'Église aussi. Je crois que c'est quelque chose dont on prend conscience petit à petit. Combien nous avons de la chance d'être accompagnés. J'ai fait une expérience, là, il n'y a pas si longtemps, je suis aumônier d'étudiants et j'ai participé à un groupe biblique universitaire, le GBU, du groupe biblique universitaire, qui sont plutôt d'obédience évangélique. Donc pas rattachés à une église traditionnelle protestante, mais une d'obédience évangélique. Donc se dire que l'évangélique, grosso modo, il y a un pasteur, s'il trouve du monde pour le suivre, il fait une église. C'est grosso modo ça. Mais je voyais, moi, ça m'a touché, la solitude de ces jeunes étudiants qui étaient vraiment comme des brebis sans berger, quoi, qui étaient livrés complètement à eux-mêmes. Pas de référence, pas de. Alors ils lisaient la parole de Dieu, ils avaient toute une technique pour lire, bon très bien, ça, c'était très bien ce qu'ils faisaient, c'était. Mais un peu une parole d'autorité, un peu une parole d'accompagnement, ne serait-ce que d'encouragement. Nous, on a quand même la chance d'être dans une église, d'être dans un corps, on n'est pas seul. Et ça, c'est bien de prendre conscience de ça, qu'on n'est pas seul. Et on reçoit tellement. On a une grande chance, et ça, je crois qu'on en prend, justement, dans une société très individualiste, etc. Eh bien, l'Église est un corps. Et nous sommes membres de ce corps. Et puis, plus encore, dira saint Paul, nous sommes membres les uns des autres. C'est « je ne peux pas dire « je » sans dire « tu ». Alors c'est vrai que l'accompagnement spirituel sur la durée, justement, ben, ça va objectiver ce que je ressens. Est-ce que ce que je ressens là, est-ce que c'est de la bon, ça va m'essayer de. Ça met un sceau sur mon désir. Mettre un sceau sur mon désir, c'est-à-dire, au fond, me donner aussi une certaine paix. Alors, le père spirituel ou l'accompagnateur spirituel, qui peut aussi être un laïc, une religieuse, un religieux, un prêtre, bon, peu importe, qui est quelqu'un qui est quand même un enracinement dans l'Église, une certaine formation. Bien sûr, l'accompagnateur spirituel ne va pas prendre la décision à la place d'eux. Il est bien plus là pour indiquer, de dire non, ne va pas dans telle direction, tu vas dans la souffrance. C'est-à-dire, tu vas dans le mur, quoi. Donc, si tu prends telle direction, bon. Mais entre aller dans le mur et choisir une autre, il y a peut-être une direction qui va dans le mur, mais il y en a mille autres qui n'y vont pas. Donc ça veut dire que ces mille autres, ben, vous savez, quand on accompagne spirituellement, il faut beaucoup d'humilité et puis de. Parce qu'évidemment, c'est un peu humain. Qu'on rencontre la personne une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, ben forcément, on a des projets sur la personne. On dit oui, c'est là, oui, c'est vrai, je devrais bien marier, etc. Bon, ou ceci, ou dans tel oui, dans tel engagement d'église, ou dans tel engagement de professionnel, oui. Il faut aussi renoncer comme accompagnateur à avoir un projet sur l'autre. Il faut vraiment y renoncer. Et c'est aussi un combat. On est face à une liberté. On est face à Dieu qui agit dans nos vies et qui agit dans la vie de l'autre. Et ça demande un vrai détachement aussi dans l'accompagnement. Pour ne pas projeter sur l'autre nos propres désirs, alors que ce serait tellement humain. Et puis c'est des bons désirs, on veut le meilleur, évidemment, pour l'autre. Donc, voilà, donc l'accompagnement, hein, ça aide aussi à pointer telle ou telle chose, ça peut encourager, dans un sens, mettre en garde. dire là où il ne faut pas aller, un choix qui irait contre l'Église. Hein, mais c'est vrai que l'intervention de l'Église aussi, dans ce qui engage l'Église, entre guillemets, la vie religieuse et la vie sacerdotale, ça engage l'Église de façon publique, mais en même temps dans le mariage. Alors, ça c'est peut-être un peu différent. Alors, vous savez, dans le mariage, le prêtre reçoit les consentements des jeunes époux. Il reçoit le consentement. Mais stricto sensu, il n'y a pas d'engagement d'Église. C'est-à-dire, l'Église ne s'engage pas. Bon, maintenant, ça dépend du prêtre. C'est-à-dire, moi, c'est vrai que dans les quelques mariages que j'ai accompagnés, j'avais beaucoup de soucis de m'impliquer. C'est-à-dire d'une certaine manière, c'est pas moi qui me mariais, mais si j'avais pas une certitude, ben je le disais. Bon, maintenant, si je voulais se marier, mais c'est vrai que ça calme un peu. Quoi. Ça... Écoutez, moi, je crois que ça va être un peu complexe, votre vie commune. Bon, ça, c'est... il faut. Bon, maintenant, chaque prêtre est un peu agi, mais si justement on voit les choses de l'extérieur et on se dit, oulala, il se lance dans un truc. Oula, attention, hein, accrochez-vous. Hein. Mais stricto sensu, c'est plutôt personnel, c'est pas. Mais l'Église ne s'engage pas stricto sensu dans le mariage. Il n'y a pas de discernement que validerait l'Église. Alors, elle s'applique beaucoup dans la préparation au mariage, mais le paquet, dans tout ce qu'il faut. Mais voilà. Alors oui, les circonstances et les nécessités. Ça, j'aime bien cette phrase du philosophe Pascal. Hein, les circonstances et les nécessités. Hein, voilà nos maîtres spirituels. Je suis dans telle circonstance, je suis là, ben voilà. Ça, d'une certaine manière, ça s'impose à moi. Je n'ai pas forcément le choix. Vous voyez, je crois qu'il faut bien que je vive et j'ai trouvé tel job. Puis bon, par le temps qui court, il ne faut pas non plus être archi difficile parce que bon. Les circonstances et les nécessités. C'est important de dire que par ces circonstances et ces nécessités, le Seigneur aussi nous conduit. Il s'est trouvé que les choses ont fait que c'était une voie. D'avoir un regard de foi aussi sur ces circonstances et sur ces nécessités. Oui, oui.
Oui.
Oui, c'est sûr. Alors, est-ce que ça ne nous pousse pas à faire des mauvais choix, les circonstances et les nécessités? Alors, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai, par exemple, on va prendre un exemple dans la vie religieuse. On ne peut pas dire qu'il y ait, ça se bouscule au portillon, dans les noviciats. On ne peut pas dire qu'il y ait affluence à nul autre pareil et qu'il faut vraiment demander à insister pour un coup. Un truc qui est sûr, c'est que ce manque de vocation parasite le discernement. Imaginez, une communauté qui n'a pas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans reçu de novices. Quelqu'un vient. C'est compliqué, hein, de dire non. Bon, ben, elle s'améliorera, ça ira mieux, puis il faut faire confiance. Oui, c'est vrai, parfois les circonstances et les nécessités peuvent nous engager dans des voies qui ne sont pas forcément, c'est vrai. C'est là où ça demande, c'est toujours, on est toujours ce qu'on appelle dans le contingent, dans le discernement. Le contingent, c'est-à-dire dans ce qui est le concret, le quotidien, il n'y a pas des formules toutes faites. Mais merci pour la question, mais c'est vrai en même temps que en tout cas d'accueillir certaines circonstances, par exemple d'accueillir le célibat pour un certain nombre d'entre vous, c'est une circonstance, j'accueille cette circonstance et dans cette circonstance, je choisis aussi de porter du fruit. C'est une terre où je peux porter du fruit. Le conseil des personnes qui nous aiment, ça je crois que c'est aussi intéressant de voir ça, de dire, il y a l'accompagnateur spirituel, mais il y a aussi de ne pas, alors là aussi il faut avec prudence, mais de ne pas hésiter dans des choix, des personnes dont on connaît une certaine sûreté dans le jugement, par exemple, de ne pas hésiter à demander conseil. Et ça m'amène à une autre chose qui est vraiment importante, c'est les trois étapes de la décision, de toute décision, au fond, qui sont les trois étapes de la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est pas mettre le pied sur le frein. C'est pas ça la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est de mettre de l'intelligence dans nos choix et dans nos actions. C'est ça la vertu de prudence. La vertu de prudence a trois étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle la réflexion. La réflexion, c'est-à-dire de se remettre face à la finalité, au choix qu'on va faire, de voir les moyens à prendre par rapport à la finalité poursuivie, qu'elle soit de tout ordre. Ça, cette vertu de prudence, elle n'est pas directement liée à la foi. Hein, de tout ordre, je veux dire, dans un plan marketing, dans le lancement d'un nouveau produit, etc. Donc on voit bien comme dans l'entreprise, par exemple, c'est intéressant, c'est très souvent appliqué ça, hein, ces trois étapes. Hein. Donc la réflexion. Ensuite, le conseil. Et on demande conseil à des personnes aptes pour nous conseiller. Et ensuite, le passage à l'acte. Mais vous voyez, parce que la vertu de prudence a pour finalité le passage à l'acte, précisément, l'action. Mais dans ces trois étapes-là, on peut très bien trébucher. Par exemple, quelqu'un qui agit, tac, l'intuition, un peu impulsif, paf, passe à l'acte immédiatement, sans la réflexion et sans le conseil. Quelqu'un, au contraire, qui resterait dans la réflexion en permanente. Mais oui, mais j'ai encore besoin d'autres éléments, et qui jamais ne passerait à l'action. Ou quelqu'un qui demande conseil, mais à des personnes qui sont aptes à le conseiller. Combien de gens se confessent dans les salons de coiffure, par exemple. Bon, on demande des conseils matrimoniaux, mais qu'est-ce qu'on a pensé, on raconte sa vie, bon, ça c'est face au boucher, je veux dire, le type, il n'a rien à voir, et puis on téléphone, j'écoute de temps en temps des émissions comme ça, à la radio, hein, conseil conjugal. Germaine m'a quitté. Ça, la radio devant tout le monde, je veux dire. Bon, est-ce que, au fond, voilà, qu'est-ce que je dois faire, C'est marrant, hein, comme les gens s'en remettent à un conseil d'une personne qu'ils ne connaissent absolument pas. Comme c'est la radio, donc c'est vrai. Et puis voilà. Donc, c'est étonnant, hein, mais il y a fil d'attente. Pour eux, les gens veulent absolument avoir leur conseil, partir avec leur conseil. Alors, donc, du coup, c'est là où c'est intéressant de voir que, au fond, dans le conseil, on peut aussi fauter, pécher d'une certaine manière, ou zapper cette dimension-là de conseil, soit en s'adressant à la mauvaise personne, soit tout simplement en ne prenant pas conseil. Ce qui est souvent le cas dans la jeunesse en particulier, d'être apparemment assez entier, des tempéraments forts, qui font que on ne voit pas pourquoi, si on a assez d'intelligence dans le cœur et assez de lumière, on voit les moyens à mettre en œuvre par rapport à la finalité, c'est bien pensé, c'est bien bâti, pourquoi un conseil au fond? C'est là où ça demande de l'humilité. De soumettre telle décision, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tout simplement, il y a plus d'intelligence dans deux têtes que dans une. Puis tout simplement, c'est un acte d'humilité, de confiance. C'est dire, t'en penses quoi? Un ami, ça peut être de dire, tiens, je pensais faire un truc, pour moi ça me paraît archi clair, ça me paraît super, c'est bon. Mais tiens, si on discernait. Et vous voyez, par exemple, dans l'Église, il y a beaucoup, dans les discernements qui sont pris, c'est beaucoup en équipe. Et cette dimension d'équipe est importante. C'est pas seul aussi, surtout pour des grands discernements, et puis même dans le monde de l'entreprise, il y a tout un staff, des personnes qui croisent leur opinion, qui croisent les données, etc., qui permettront ensuite de passer à l'acte. Mais bien souvent, des gens intelligents particulièrement, ne voient pas l'intérêt de demander conseil. Qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apprendre?
Parce qu'on a tellement réfléchi sur...
C'est clair. Mais non, il
ne
peut pas. Pas du tout. C'est pour ça que je parle du conseil. Donc, il ne peut pas du tout comprendre la situation. Justement, voilà, typique. Là, vous avez un cas, voilà, cas d'école, mademoiselle Margot. Voilà, c'est ça. C'est tellement... Il ne peut pas... Il faut peut-être faire confiance à l'intelligence de l'autre.
qui n'est pas complètement... Alors, c'est sûr, c'est qu'on va prendre quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, bon, on ne va peut-être pas s'adresser à lui, le pauvre, bon. Maintenant, il faut faire confiance à des personnes avec qui, déjà, qui nous aiment, et qui ont de l'affection pour nous, qui veulent le meilleur pour nous, et qui on soumet les choses. Et on expose, justement... Rien que le fait de dire pourquoi on a choisi, on a pris la décision, ça, rien que ça, ça éclaire. Et voilà, de se le dire ou de le dire ou de s'entendre le dire. Ben voilà, ça me paraît clair parce que j'ai eu telle chose. J'ai dit, ah oui, d'accord, ok, tac, tac, tac. Bon. Puis il y a eu tel événement qui est venu et puis j'ai eu connaissance de tel autre. Du coup, ça me paraît évident. C'est peut-être la bonne décision parce qu'il y a des gens qui ont un bon discernement aussi, un peu l'habitude du discernement. Mais un vrai discernement demandera toujours conseil. Au moins pour valider. Ou compléter. Ou affermir. Vous voyez, c'est là où quand on a une bonne intelligence, c'est toujours un combat de demander conseil. Parce qu'on ne voit pas du tout ce que l'autre peut nous apporter. On ne voit pas. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais bon, et quand on fait l'expérience de s'ouvrir à quelqu'un, de dire, mais qu'est-ce que tu en penses, à un ami, à quelqu'un dont on sait, bon, avec qui on peut réfléchir, Vous voyez, le fait de pouvoir réfléchir, de pouvoir être stimulé dans la réflexion, de ne pas être seul dans sa propre réflexion, face à tel projet ou à tel autre. Bon, vous avez un projet humanitaire, par exemple, bon, ben voilà, j'ai un projet humanitaire, c'est super, et puis ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, ben voilà, en plus si Jésus le dit, bon, ben, du coup, tout le monde, évidemment, si Jésus le dit, on ne peut pas dire grand-chose d'autre. Mais est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est le projet? Est-ce que c'est cette forme-là? Est-ce que ce sont ces moyens-là employés? Parce que les moyens sont aussi importants que la finalité. Les moyens employés. Oui? Ah oui. Ah oui, c'est très clair. On l'a dit avec l'accompagnement, ce que je vous l'ai dit avec l'accompagnement spirituel, c'est pas la personne qui prend la décision. C'est tout le rôle du conseil, c'est que on éclaire l'intelligence de l'autre le plus qu'on peut pour lui donner les moyens de prendre la décision. Mais c'est votre décision. Et ça, on le dit dans les cabinets de conseil, c'est très clair, parce que c'est votre. Il nous semble que. Mais on est là que pour éclairer, que pour vous aider à réfléchir, que pour. Mais rien que ça, c'est très précieux. Aider à réfléchir, de ne pas être seul dans sa réflexion, d'avoir un regard extérieur, un extérieur. Mais c'est pas la personne, à un moment donné, elle prendra, ce sera sa décision. Parce que si elle sent, vous voyez, quelqu'un qui sent qu'il a été manipulé, quelqu'un qui sent que, d'une manière ou d'une autre, eh bien, il n'y a pas une vraie liberté dans son choix, au plan personnel, par exemple. Imaginez un peu quand vient l'épreuve, quand vient le moment difficile, etc. Vous imaginez ce que ça veut dire derrière ? Ah oui, vous savez, moi, j'étais complètement manipulé, on m'a berné, on a joué sur l'affectif, Puis en fait, je me suis fait avoir, quoi. C'est pour ça que c'est toujours important de susciter la liberté de l'autre. Je veux dire, c'est ton choix. Il me semble que... Mais ça n'empêche pas le conseil. Je veux dire, ben voilà, bon, on va parler ensemble, et puis... De même que dans l'Église, quand il y a une décision qui est prise, même si on l'a pensé en équipe, il y a toujours un chef d'équipe. Il y a toujours quelqu'un qui a un mandat... mais qui s'entoure d'une équipe. Mais sa décision, c'est sa décision. Et si ça ne marche pas, c'est à lui qu'on s'adressera.
Mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'humilité de reconnaître, de ne pas pouvoir conseiller sur tel ou tel point ? C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu obligés de donner un avis ?
Alors oui, il y a ceux qui conseillent sur tout, c'est ça que tu veux dire ?
Ouais, non, on ne dit pas, bon, ben, tu me poses cette question, moi je ne suis pas capable...
Ah, qui se disent, bah, oui, je suis pas... Ah oui, d'accord, ok. Qui disent, bah, non, ça c'est pas mon domaine. Mais c'est là où c'est facile de choisir la personne qui nous aide qui peut conseiller. Justement, on n'est pas tous aptes à conseiller sur tout. Et donc, précisément, et puis on n'a pas non plus à s'ouvrir. C'est pour ça, à qui on va s'ouvrir de tel ou tel projet ? Ben, ça demande quand même, justement, un discernement, encore une fois, sur la personne à qui on va demander conseil. Parce qu'on a vu qu'une première fois, ben, ça avait quand même marché. Où il nous semble que... Ben, il y a une confiance qui s'établit, on nous semble que cette personne a les pieds sur la terre, bon, et puis que bon, n'est pas complètement ailleurs, quoi. Oui, oui. Une autre question, non? Bon. Donc voilà, ces trois étapes. Et ensuite, le passage à l'action. Mais rien que dans le passage à l'action, ça, donc la troisième étape de la vertu de prudence, il peut y avoir aussi des demandes, parce que des gens qui demandent en permanence conseil. Au contraire, ils sont tellement insécures que toujours à la recherche de quelque chose qui va venir fortifier leur propre conviction. Bah, c'est mauvais, c'est pas que c'est mauvais, mais disons, ça fragilise. Parce que, évidemment, si vous allez voir tous les curés de Paris pour demander conseil, bah, chacun viendra avec sa bonne volonté, il vous dira, ben bah, voilà, il me semble que, dans tel cas, il me semble faire. Après, tu sors du dixième, tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il m'a dit 10 trucs différents. Bah, du coup, oui, c'est mauvais parce que ça fragilise le oui. Ça n'aide pas le passage à l'action. Ça n'aide pas le passage à l'acte, oui. Oui. Alors, il faut lui faire confiance. La décision est mienne. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. La décision, elle est mienne. Je me laisse éclairer parce que ça rejoint. Attention, le conseil, ça rejoint aussi quelque chose en moi. Si je vois que ce dont il me parle, ça ne trouve aucun écho dans ce que je porte, bah, là, il y a un problème. Il faut quand même qu'il y ait une adéquation. Il faut quand même que ça résonne en soi. Ce que l'autre, on voit que l'autre pige, il percute bien. Je veux dire, on voit qu'il n'est pas complètement à côté de ses pompes. Donc, dans ce que je lui parle, avec son intelligence, il voit de quoi je lui parle. Du coup, c'est bon. Et puis maintenant, il faut que j'aie demandé une fois. Je ne vais pas demander une vraie fois. C'est là où on voit. Donc, parfois, il y a des gens, ça s'appelle les velléitaires, des personnes qui ne passent jamais à l'action. Il y a le ballon de foot, mais jamais on shoot dedans. Alors on étudie les angles d'attaque pour rentrer, on se forme, on machin. Mais maintenant, vas-y, mon grand. Mais au cas où je loue, ben, vas-y quand même. Ben, oui, parce que sinon, on est à 80 ans, de se dire, ben, est-ce que j'y vais? Bon. Non, mais c'est vrai, il y a un côté. C'est là où la confiance, mais bon voilà, puis il y a la grâce de Dieu, quoi. À un moment donné, une fois qu'on a vu, on a tout listé, on a machiné, ben on avance, quoi, parce que sinon, on fait quand même jamais rien de sa vie, quoi. Ça serait un peu dommage. Alors. Ah oui. Le conseil de personnes qui nous aiment, une des étapes de la vertu de prudence. Demander aux autres ce qu'ils en pensent, consulter, voilà. Si on ne me demande pas, je ne dis rien, même si je vois telle ou telle chose. Ah oui, c'est vrai que. Il n'y a rien de plus exaspérant que ceux qui disent leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé. Vous voyez ? Ça tombe bien, je ne t'ai pas demandé ton avis. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'émettre un avis favorable. Et le stempel, tu vois, voilà, du coup, bah, j'ai donné mon avis. Au moins, il était prévenu, je lui avais dit, il était prévenu. La cape s'en prendra à lui. Voilà, bon. Ça ne veut rien dire. Une bonne formation, c'est intéressant, une bonne formation intellectuelle, c'est une formation spirituelle humaine qui donne des principes universels de l'agir. C'est vrai que c'est intéressant ça. C'est qu'au fond, le fait d'avoir des principes, un peu comme on les énonce maintenant, hein, une formation aide. Une formation intellectuelle, une bonne formation humaine, une bonne. C'est justement à voir à analyser la chaîne des effets et des conséquences. Hein, les causes et conséquences, vous voyez, ça aide à anticiper. C'est comme à l'échec, il faut toujours avoir un coup ou deux coups d'avance. C'est-à-dire, on anticipe. Et ça, c'est la formation qui nous permet d'anticiper. C'est l'intelligence qui nous permet d'anticiper. On dit, ben voilà, si je prends de telles choses, il y aura peut-être telle conséquence, telle autre. Du coup, et qu'est-ce qui va faire que j'anticipe bien? Ben, c'est que c'est une bonne formation. Et puis aussi, qu'est-ce qui va faire? C'est l'expérience. L'expérience d'autres cas qui va faire que je vais acquérir une forme d'expertise, on peut dire. Parce que je tire la leçon de l'expérience, bonne ou mauvaise, je tire quelque chose. Je veux dire, ça me. Même un échec, par exemple, amoureux, par exemple, bah, il faut aussi avoir une relecture de cet échec. Je veux dire, quelle expérience j'en tire? Qu'est-ce que ça m'a appris de moi-même?
Qu'est-ce que ça m'a appris de l'autre? Qu'est-ce que ça m'a appris de l'amour? Une vie chrétienne, évidemment, sérieuse, c'est vrai que si on a le désir d'accomplir la volonté du Seigneur dans notre vie, hein, ben, ça veut dire une vie de prière, une vie sacramentelle, une vie de... si vraiment on a complètement étranger, parce que à la dimension chrétienne, si on veut vraiment accomplir la volonté de Dieu maintenant, pour discerner, il n'y a pas forcément la nécessité de la foi. Enfin, je crois que c'est très clair. Vous avez vu, hein, on a vu dans le domaine d'entreprise, etc. Bon, il y a une dimension, comme toujours dans notre foi, il y a une indépendance aussi de des raisonnements humains. C'est-à-dire, tout n'est pas impliqué pendant la foi jusqu'au cou. Donc il y a aussi une manière humaine sans la dimension de foi. Nos vies, nous voulons aussi la vivre dans une dimension de foi. Bon, chacun en est là où il en est, mais du coup, la foi et la vie de prière et la fréquentation des sacrements, de la parole de Dieu, aident aussi à éclairer l'intelligence. C'est une autre lumière qui arrive dans notre intelligence que celle strictement de la raison naturelle. Même si la raison naturelle n'a pas à être méprisée, vraiment, on doit l'honorer et lui donner sa place. Hein. Et enfin, les aptitudes requises. Quand un candidat se présente au sacerdoce, l'évêque demande « A-t-il les aptitudes requises ?» Ça rejoint un peu, mais les aptitudes, là, je l'ai mis dans l'aspect objectif, dans le sens, c'est que la personne voit, ben oui, il y a quand même une facilité, encore une fois, mais c'est visible, c'est le côté, entre guillemets, non seulement je ressens que j'ai de la facilité, on voit, je ne sais pas quoi, dans tel couple, on voit que ça l'amour passe, puis on sent que la mayonnaise prend bien, on voit bien que les choses avancent, dans telle décision, on le perçoit bien, du coup, d'avoir les aptitudes requises. Alors, on peut acquérir aussi des aptitudes qu'on n'a pas. C'est vrai que bien souvent, des décisions nous emmènent bien plus loin dans notre humanité. Nous font justement, c'est l'engagement professionnel, l'engagement affectif, l'engagement spirituel qui nous emmène bien plus loin souvent dans nos humanités que ce à quoi on était préparé au départ. Mais c'est là justement de dire, ça nous permet d'acquérir de nouvelles aptitudes, mais il faut quand même à la base avoir une capacité de, une facilité de. Voilà. On a un petit peu. Bon, c'est les. C'est pas exhaustif, hein, bien sûr, mais tant s'en faut. Mais les quelques critères qui me semblent. Encore une fois, c'est un faisceau. Vous voyez, c'est plusieurs choses à mettre ensemble. Il n'y a pas une seule chose. Il n'y a pas à dire, les circonstances et les nécessités. Ben oui, bon, on a vu, c'est vrai que parfois les circonstances et les nécessités me mènent dans le mur. Donc il y a éclairer les circonstances et les nécessités avec d'autres choses. Oui, c'est un peu quelque chose, un feu croisé qui arrive au fond, au cœur du discernement qui est la certitude intérieure. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre question ? Ou complément, vous voulez ajouter ? Oui, oui.
Quelle est la différence, s'il y en a eu, entre le discernement et le raisonnement ?
Alors, le discernement vise l'action. Je crois que c'est... Parce qu'on peut raisonner, vous voyez, on peut avoir un raisonnement en permanence, Et puis, mais le discernement, ça vise le choix, ça vise l'engagement, ça vise la prise de décision. Le raisonnement, pas forcément. Le raisonnement sera au service de ça. Et dans le discernement, il y aura raisonnement. La place de l'intelligence est très importante. La place des sentiments aussi est importante, la place de la volonté. Mais ça vise à éclairer la volonté qui elle-même prend la décision. Alors que dans les raisonnements, on peut raisonner sur éventuellement un choix possible, oui. Puis on refait le monde, refaire le monde. Du coup, alors on raisonne, mais est-ce qu'il y a une prise de décision à la fin? Non. Oui.
Il y a quelque chose de récurrent dans ce que vous avez dit, c'est chercher la lumière là où on est.
Oui.
Et qu'on l'a retrouvé un petit peu dans tout. À chaque fois que vous donnez une réponse, on avait on ne sait pas si on doit aller à gauche ou à droite, on est là où on est et on cherche à fleurir là où on est, etc. Et on a remarqué ça dans pas mal de trucs. choisir, c'est pas rester
sur place. Faire fleur, faire vie sur place. À moins qu'on ait une autre lumière. Mais la réalité de nos vies fait que bien souvent, les circonstances et les nécessités me demandent de choisir. Par exemple, vous donnez, il n'y a pas très longtemps, une jeune fille là, qui est en terminale. Elle ne sait pas, très intelligente, vraiment une fille très capable, une grande, bonne intelligence, elle ne sait pas quoi choisir. Mais s'imposera à elle qu'il faudra quand même s'inscrire. Si on ne veut pas rester sur le banc de touche pendant l'année universitaire prochaine, il faudra bien s'inscrire dans quelque chose. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faudra taper dans le ballon parce qu'il n'y a pas forcément d'autres choix possibles, par exemple ce cas-là. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu en réaction face au changement pour le changement. C'est-à-dire, il faut jamais durcir les choses. Alors, c'est vrai, j'y suis revenu plusieurs fois, mais il faut jamais. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a des étapes dans nos vies où le Seigneur nous emmène plus loin, nous permet d'acquérir d'autres compétences. J'en ai parlé un petit peu. C'est vraiment. Et puis quand on sent qu'on fait du surplace, on le sent. Quand on sent qu'une relation, par exemple, amoureuse fait du surplace, on le sent. Ben ça, c'est aussi un critère subjectif. On se dit, ben on ne peut pas faire du surplace. C'est vrai que c'est un peu idiot. Combien de personnes, donc, j'avais pu accompagner et que dans la préparation au mariage ou au commencement, au discernement, ben disaient, ben, ça me semble quand même pas évident à franchir dans cette relation si on veut que cette relation puisse fleurir. Ça me paraît, sinon, on n'avance plus. On n'avance plus. Et ça, du coup, on en revient, je veux dire, comme un élément subjectif qui nous fait reprendre conscience de, ben voilà, oui, ben on fait du surpasse, on veut pas, et du coup, ben, on se remet en mouvement. Mais rien que ça, quand on le refait de se remettre en mouvement, ben, on l'accueille, au fond, comme une grâce du Seigneur, puis que, bon, comme une lumière qui nous est donnée pour agir, et du coup, de nous re-questionner, de nous dire, ben voilà, on se remet en cause, parce que arrivait le moment. D'autres petites questions, oui.
On n'a pas beaucoup parlé d'intuition. Est-ce que c'est ce que vous appelez la certitude
intérieure ? Oui, ben, en partie. L'intuition, c'est au fond l'intuition. L'intuition, elle n'est pas toujours rationnelle. C'est-à-dire l'intuition, on sent que, alors c'est un peu un deuxième sens, c'est un sixième sens plutôt. On perçoit que, mais c'est toujours bien de mettre des mots sur une intuition. Alors, il y a aussi des tempéraments qui sont beaucoup plus intuitifs que d'autres. Mais ne serait-ce que pour soi, c'est bien de mettre des mots, de dire est-ce que c'est intuitif ? Pourquoi j'ai l'intuition de ça ? Il y a toujours des événements, des circonstances, des rencontres qui ont fait que j'ai eu l'intuition de ça. C'est pas une intuition qui vient de nulle part. Donc, par quoi elle a été provoquée, cette intuition ? Du coup, le fait d'aider à mettre des mots, oui, pourquoi pas l'intuition ? Mais en tout cas, justement, pour encore une fois arriver à une forme de, c'est pas loin de la certitude intérieure, justement, ben, j'ai bien eu raison d'avoir cette intuition. D'une certaine manière, c'est pas sans raison que j'ai eu cette intuition qui m'a poussé à prendre telle ou telle décision. C'est pas sans raison. Oui. Oui, oui, ça peut tout à fait arriver, parce qu'on est un peu bloqué, on est sous le regard de l'autre. Pourquoi dans tel choix de profession, ou tel choix de vie, ou tel choix, on se dit, ben, quel sera le regard de mes parents, par exemple ? Quel sera le regard de mes amis ? C'est là où on se remet vraiment sous le regard de... Oui, bien sûr, ça peut bloquer. Maintenant, il ne faut pas vivre par procuration non plus. C'est-à-dire, on ne vit pas dans le regard de l'autre. Acceptons, ayons le courage de prendre des décisions en respectant tout ce qu'on a dit, mais à un moment donné, si on voit que c'est clair, si pour les personnes en cause ou qui sont concernées, ben, il y a aussi une certaine clarté, mais voilà, et puis c'est... Ah oui, le désir de plaire, ça c'est un piège.
faut pas être forcément désagréable. Mais vous voyez, le désir de plaire, vous voyez, être un peu esclave de ça, on veut plaire. On en a parlé à l'occasion de l'une ou l'autre rencontre. Le désir de plaire, ça c'est... Oui, mais ça ne va pas plaire à telle personne. Mais comment telle personne va réagir? Comment est-ce qu'elle va me voir? Liberté intérieure. J'ai discerné. Il me semble que... Mais si lui plaît pas, tant pis. Oui.
Le désir de plaire, oui, mais le désir tout court. Vous avez parlé de la liberté intérieure.
Oui, oui.
Parfois, je me demande un peu quelle est la prudence. C'est-à-dire, on a quand même des désirs.
Oui. Alors, nos désirs, j'en ai un petit peu dit quelques mots, mais c'est vrai que dans ces désirs, quand j'ai parlé un peu des motivations au tout départ, hein, j'ai parlé des motivations et de voir que nos motivations ont, d'une certaine manière, sont appelées à être purifiées. Il y a une forme de purification de nos motivations, parce qu'on n'est pas toujours archi au clair. Là, c'est ce que j'ai dit que dans le fait de rectitude... la rectitude de morale, quoi, rectitude d'intention. Mais nos motivations ne sont pas archi claires, archi. Et c'est beaucoup parfois l'épreuve qui va purifier la milieu de la motivation, c'est la. Parfois l'échec face à une décision prise qui va me ramener à une certaine humilité. Bon, ça. C'est vrai que nos désirs ont à être purifiés parce qu'ils ne sont pas. Naturellement pur, c'est pas du 100%. Je vous propose qu'on s'arrête. Oui. Oui.
En introduction, vous avez dit que le discernement, c'était un choix entre le bon et le bon.
Oui.
Mais est-ce que certaines fois, on sait qu'on va faire un choix qui va faire du mal à quelqu'un, qui parle de choses pas forcément
bonnes. Oui. Mais oui, bien sûr. Par exemple, une rupture. Une rupture, par exemple, bon, ben, là, on sait très bien qu'on va faire du mal. Mais on ne choisit pas, dans le cas de rupture, on ne choisit pas le mal. C'est que, d'une certaine manière, on choisit un bien pour la personne, parce qu'on voit clairement que ça ne va pas fonctionner. Donc, le fait de choisir un bien, évidemment, peut entraîner une certaine souffrance. Parce qu'effectivement, on est attaché à l'autre, etc. Bon. Maintenant, il y a d'autres questions, quand il n'y a aucun bien qui se présente à nous. Quand il n'y a aucun bien qui se présente à nous, ça peut arriver, des situations où il n'y a aucun bien qui est exercé. Une maladie, par exemple. Si on ne fait rien, on en meurt. Il faut peut-être amputer, etc. L'amputation est aussi un mal. Les deux sont des maux. Donc, c'est ce qu'on appelle le moindre mal. Qu'est-ce qui nous paraît le mal moindre? Mais on ne va pas dire que c'est un bien. On ne va pas dire que c'est un bien. C'est précisément un moindre mal. Donc c'est vrai que des situations où on n'est pas face à des biens, parce que, pour X raisons. Mais c'est parfois faire choisir le bien peut entraîner une souffrance. Mais on a dans son cœur clairement choisi le bien. C'est-à-dire, dans son cœur, on a pensé à l'autre. Et on a, de cette manière, aimé l'autre pour lui dire à quelqu'un qui n'est pas à sa place dans une entreprise à l'issue d'une période d'essai, évidemment, c'est créer une souffrance. Mais est-ce que c'est pas lui rendre service? Combien de manques de courage ont entraîné des maux bien supérieurs à ce qu'ils n'auraient été au moment où la décision a été prise au tout départ? Parce qu'il y a eu un manque de courage. On voit un manque d'amour de l'autre en tant que tel. J'aime l'autre et de cet amour désintéressé, je vois qu'il n'est pas ou elle n'est pas à sa place. Donc c'est pas me défaire d'eux, etc. Je vois que ça va aller dans le mur. C'est quand même, on choisit quand même le bien. Mais ça, ce bien-là, on voit bien que en Jésus, on voit bien que le bien d'accomplir la volonté du Père, ça n'a pas été sans payer de sa personne. Oui.
C'est essayer d'être moins influençable par les autres. C'est-à-dire que
oui.
Dès qu'on nous conseille un truc, qu'on nous dit quelque chose, c'est essayer de se détacher de ça parce que à ce moment-là, c'est qu'on a dit qu'on.
Voilà, c'est ça. Du coup, c'est ça. Le désir de plaire, le fond d'avoir, d'être sous le regard de l'autre, oui. Ça demande une certaine maturité, ça demande au fond une certaine humilité aussi, le fond de bon, ben. Parce que sinon, on reste, c'est une forme d'esclavage quand même. Le regard de l'autre, si on est tout le temps dans le regard de l'autre et dépendant justement du désir de plaire, du désir de. C'est souvent inconscient, hein. De faire plaisir, on va faire plaisir. Bon, encore une fois, on n'est pas obligé d'être désagréable, mais comme vont vivre par procuration, vous voyez, vivre. Bon. Il faut s'en détacher. Il faut demander au Seigneur. Je crois que c'est vraiment dans la prière, dans la. Dans cette. Vous voyez un peu dans cette dimension d'humilité, de remise de soi dans les mains du Seigneur, dire je suis ce que je suis sous le regard de Dieu.
Et ça fait partie du discernement, de ne pas se laisser remettre complètement en question par le.
Vous, entre autres, c'est pas quelqu'un qui va me dire ben, je sais pas quoi, j'ai un tel projet humanitaire, mais t'es complètement idiot d'avoir choisi ça, etc. Bien sûr. C'est d'où l'importance de la certitude intérieure. Parce que c'est être assez clair, d'où j'ai pris conseil, j'ai réfléchi, maintenant, il y en a qui me diront, bon. Ensuite il y a des tempéraments, il y a la question psychologique, il y a des personnes, dès qu'on leur dit, on les questionne, ça les déstabilise au plus haut point. Ben, voilà. Une fois qu'on sait qu'on est déstabilisable et influençable, on tient compte de ça aussi, pour dire, ben voilà, non, ça va pas être, ça va pas être ça qui va emporter la décision.